Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Il est 9h40 et vous êtes bien sur France Inter. Je vous souhaite une très belle journée. La bienvenue dans l'Instant M.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Mais ne spoiler.
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Crise ouverte au journal Le Monde. Ouverte parce que dûment médiatisée par la rédaction qui a rendu public son bras de fer avec l'un de ses puissants actionnaires. Retour en arrière. 2010, Le Monde, étranglé par les dettes, se vend à un trio multimillionnaire, Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Pierre Berger est mort. Xavier Niel et Mathieu Pigasse co-contrôlent donc le groupe de presse. Sauf que sans prévenir personne, Mathieu Pigasse vend la moitié de ses actifs à un industriel tchèque. Mis devant le fait accompli et très inquiet de leur avenir, les journalistes demandent alors à leur propriétaire de leur accorder un droit de veto sur les prochains changements d'actionnaires. Xavier Niel a signé, Mathieu Pigasse dit au Figaro qu'il ne signera pas. Il avait jusqu'à mardi minuit, depuis plus rien n'est sorti.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Alors, à signer ou à pas signer, bonjour Louis Dreyfus.
Bonjour Sonia de Villers.
Président du directoire du groupe Le Monde, c'est-à-dire le quotidien Le Monde, évidemment, ses magazines, mais aussi Télérama, La Vie, Courrier International, Le Monde Diplo et le Huffington Post. Alors, je vous fais écouter une petite archive, elle va vous faire sourire. En 2010, ou pas d'ailleurs, Pierre Berger, mort il y a exactement 2 ans, s'explique sur son offre de rachat du Monde et sur son association avec Xavier Niel, mais surtout avec Mathieu Pigasse.
Moi, je pense qu'il faut faire confiance. Moi, je fais confiance à Mathieu Pigasse parce que je pourrais aussi me poser la même question. Il n'y a pas que les journalistes du Monde. Moi aussi, je peux me poser la même question et me dire, attention, Mathieu Pigasse, est-ce qu'il n'y aura pas? Non, je ne me pose pas la question parce que je connais Mathieu Pigasse, parce que j'ai confiance en sa parole, parce que je l'ai vu agir.
C'est une archive signée rue 89, elle date de 2010. Où en est la situation, Louis Dreyfus, à ce jour? Il avait jusqu'à mardi minuit expiration de l'ultimatum lancé par les représentants des journaux.
Alors, le pôle d'indépendance, qui est l'acteur majeur de cette négociation, a adressé une dernière version du texte à Mathieu Pigasse et ses conseils dans la nuit de mardi à mercredi.
C'est-à-dire au-delà de l'ultimatum?
Au-delà de l'ultimatum, je pense que l'intérêt et l'objectif de tous, c'est d'avoir un texte signé par les actionnaires. Donc le pôle d'indépendance a réuni les personnels hier et leur a dit qu'ils avaient fait une avancée dont je pense qu'on leur est tous reconnaissants. C'est-à-dire qu'ils ont garanti à Mathieu Pigasse et tout actionnaire sortant, dans le cadre d'un droit d'agrément, qu'il ne pourrait pas perdre l'investissement qu'il avait fait dans le groupe, c'est-à-dire qu'il y aurait un prix plancher, puisqu'il y avait des discussions sur la valorisation du groupe, et je pense qu'il est sain qu'ils aient fait...
Qui va déterminer ce prix plancher?
Alors le prix plancher, c'est les investissements que vous avez mis dans le groupe.
C'est l'argent qui a été dépensé. Voilà. Donc ça, l'idée, c'est de sortir du Monde sans avoir perdu ce qu'on a mis de sa poche.
Voilà. Il y avait une autre archive que vous auriez pu sortir de Pierre Berger qui a dit, revendiqué au moment de la recapitalisation du groupe, donc il y a 9 ans, que le Monde était un bien commun. Alors ça veut dire pour nous plusieurs choses, mais je pense que si on veut qu'il y ait des investisseurs qui viennent dans le groupe, leur garantir qu'ils ne puissent pas perdre d'argent, c'est sain. De ma manière, ils n'ont pas forcément vocation à faire une plus-value, mais en tout cas, sécuriser leur investissement, je pense que c'est bien que chacun prenne cet engagement et le fait que ce soit proposé par le pôle d'indépendance, je pense et j'espère que Mathieu Pigasse y a été sensible.
Alors, il y a été sensible, est-ce qu'il s'est manifesté depuis? Puisqu'il a dit quand même de manière assez sèche et catégorique au Figaro, c'est-à-dire un quotidien concurrent du vôtre, qu'il ne signerait pas.
Mathieu Pigasse a fait ses déclarations samedi. À ma connaissance, il a continué les discussions. Si les discussions ont continué, c'est probablement qu'il y a une perspective. Aujourd'hui, il n'y a pas de signature.
Oui.
En tout cas, à l'heure à laquelle on se parle. Et on est tous conscients que dans l'intérêt du groupe, il faut que tous nos actionnaires signent. Jérôme Pénoglio et moi-même, qui est le directeur du journal, qui est l'autre membre du directoire, on tient à ce que les actionnaires se retrouvent autour d'un même texte qui garantisse l'indépendance des rédactions, mais aussi une égalité de traitement entre des actionnaires. C'est le principe depuis le début. Depuis le début, il y a 9 ans, d'abord, on avait fait voter les salariés. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, absolument.
Il y avait un autre consortium qui était candidat au rachat, qui était composé de Prisa, l'espagnol, du Nouvel Observateur, mm-hmm. Pierre Driel, mm-hmm. et puis d'Orange. Mm-hmm. On a fait voter les salariés à bulletin secret. Et Mathieu Pigasse-Pierre Berger et Xavier Niel avaient dit « on se rangera à l'avis des salariés ». Et 93% des salariés avaient choisi le consortium initié par Mathieu Pigasse d'ailleurs. Donc il y a une logique à ce que, là encore, aujourd'hui, ce droit d'agrément puisse s'exercer. Et puis il y avait une deuxième logique à ce montage, c'est qu'il y avait 3 actionnaires, donc une pluralité d'actionnaires qui avaient le même pourcentage du capital, ce qui évitait que l'un soit... puisse dire qu'il avait plus d'importance que l'autre, et donc on souhaite, et c'est le principe du texte qui a été adressé par le pôle d'indépendance, qu'on garde une égalité au capital entre plusieurs actionnaires.
De quels moyens de pression disposez-vous face à Mathieu Pigasse ? Qu'est-ce qui se passe s'il ne signe pas ? Vous boudez, vous vous croisez les doigts et vous arrêtez de fabriquer le journal ? Quel est votre moyen de pression ? En quoi vous pouvez peser ?
Alors... Les moyens des initiatives, elles dépendront du pôle d'indépendance, hein, qui est l'acteur.
Oui, oui. Et quels moyens ils ont ?
Alors, je pense qu'ils ont beaucoup de moyens pour faire valoir leurs droits, mm-hmm. puisque ce sont des droits capitalistiques. Quand j'entends ici ou là des conseillers de Daniel Kretinsky dire « mais ce n'est pas aux journalistes ».
Alors, Daniel Kretinsky est donc le milliardaire tchèque, industriel tchèque, qui a racheté par surprise les actifs de Mathieu Pigasse, qui n'avait prévenu personne, qui ensuite, avec Mathieu Pigasse, a racheté les parts des Espagnols que Prisa avait dans Le Monde, et qui, par ailleurs, rachète des centrales à charbon et serait peut-être candidat à une entrée dans EDF en France.
Ces derniers jours, mm-hmm. des conseillers de Daniel Kretinsky ont dit finalement ce n'est pas aux journalistes du Monde mm-hmm. de discuter de la valeur du Monde ou de la valeur de sortie d'un actionnaire. Je pense que c'est une erreur. Quand on parle du pôle d'indépendance, on parle du premier actionnaire du groupe, qui a 25% du capital, qui rassemble les rédactions, les personnels, les fondateurs mm-hmm. et la société des lecteurs.
Mais en attendant le pouvoir,
qui ont des droits, qui ont des droits d'actionnaire.
Ils n'ont pas de pouvoir. Le pouvoir, il est réparti entre Xavier Niel et Mathieu Pigasse.
Ils ont des droits d'actionnaire, et quand vous avez 25%, mm-hmm. que vous avez 2 actionnaires, qui sont Mathieu Pigasse et Xavier Niel, qui, il y a un an, par écrit, se sont engagés à respecter un droit d'agrément, à ne pas faire de mouvement capitalistique. Ces textes existent.
Ça peut aller en justice. Il peut y avoir une action de justice des représentants des journaux dont on parle, c'est-à-dire le pôle d'indépendance, face à Mathieu Pigasse pour l'obliger à respecter ses engagements.
Ils sont les seuls décisionnaires de ce genre d'initiative, donc je les laisserai s'exprimer, mais c'est dans l'intérêt de personne que nous n'ayons pas d'accord. Et je pense que Mathieu Pigasse, mieux que quiconque, sait que si le groupe aujourd'hui est bénéficiaire, s'est transformé, c'est parce qu'il y a une adhésion pleine et entière de l'ensemble des salariés au projet. Si aujourd'hui, on se retrouve avec un capital avec au sein du capital certains actionnaires qui s'exonèrent des engagements qui sont ceux que respectent les autres, on aura une vraie difficulté. Donc je pense que pour que ce groupe continue à se développer avec rigueur, avec indépendance, on a besoin que Mathieu Pigasse signe cet accord qui est un accord qui est tout à fait équilibré.
Quid de la sphère politique dans tout ça ? Quid du ministère de la Culture ? Quid de Matignon ? Quid de l'Élysée ? Le grand quotidien de référence français voit l'entrée fracassante d'un milliardaire certes européen, mais tout de même, ça représente un risque pour l'avenir. La preuve, c'est ce qui se passe. Est-ce que la sphère politique réagit ?
Écoutez, la sphère politique ne réagit pas et je lui suis très reconnaissant de ne pas réagir.
S'en mêler.
Je pense que je préfère, à tout point de vue, que ce soit les rédactions du groupe, la rédaction du Monde, les rédactions de Télérama, de Courrier International qui se mobilisent, les rédactions de La Vie et une communauté de lecteurs. C'est beaucoup plus efficace et vous savez...
Une communauté de lecteurs, mais on a quand même fait appel à 500 personnalités extérieures du monde des idées, de la culture, etc. pour soutenir Le Monde. On a publié leur signature. C'est exprès qu'il n'y avait pas de signature politique.
C'est un choix de la rédaction du Monde.
D'accord. Dans son courrier adressé au pôle d'indépendance, Mathieu Pigasse dit avoir vendu 49% de ses actifs à cause de charges financières nouvelles et de pressions diverses. Il a été lâché financièrement par Xavier Niel qui lui servait de soutien, de socle et de garantie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes face à un actionnaire qui est pris à la gorge. Est-ce qu'il a le choix, lui ?
Mais je pense que Mathieu Pigasse ne s'est jamais engagé à garder ses actions dans le monde sur plusieurs générations. Donc que Mathieu Pigasse décide à un moment de sortir du capital, personne ne lui reproche. La question est plutôt comment associer un nouvel entrant à une gouvernance qui a montré sa solidité et qui est à l'adhésion de l'ensemble des personnels.
Alors du coup, on va revenir justement en 2010. Je vous rappelais donc Le Monde était en faillite à ce moment-là. On va entendre une archive de France 3, au micro de France 3. Éric Fotorino était le patron du journal et puis ensuite on va entendre l'un de ses journalistes.
Un journal n'est pas indépendant s'il a besoin d'un banquier à chaque fin de mois. Donc je crois qu'il faut savoir ce que c'est que le terme d'indépendance. On s'en gargarise souvent, on dit on est indépendant, mais vous êtes indépendant si vous gagnez de l'argent. Quand vous n'en gagnez pas, de toute façon, vous ne l'êtes pas.
Nous, ce que nous voulons, c'est avoir la main sur le contenu éditorial. Ça, c'est clair, qu'il n'y ait pas d'action, d'intervention des actionnaires futurs sur le contenu éditorial de nos journaux. Ce qu'on veut, par ailleurs, c'est effectivement garder sur certaines décisions qui pourraient être prises, des décisions à portée capitalistique, par exemple, on puisse avoir notre mot à dire.
Est-ce que tout le problème, Louis Dreyfus, ça n'est pas le statut du groupe, le statut, le pacte d'actionnaires de ces trois grands associés qui ont été Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse? Est-ce que ça n'est pas le problème aujourd'hui? Est-ce que tout ça ne montre pas finalement ses fragilités?
Alors d'abord, pour revenir sur les propos d'Éric Fotorino, on est ici dans un cas qu'il ne couvrait pas, puisqu'on a un groupe qui est bénéficiaire et qui n'a pas eu besoin de faire appel à ses actionnaires depuis 4 ans. Donc on est indépendant financièrement, on s'autofinance. Vous avez une structure capitalistique où un des actionnaires veut sortir, et aujourd'hui qui a cherché à trouver un nouvel actionnaire.
Il veut sortir complètement ?
Non, mais il a cherché à trouver un financement, donc il a cherché un actionnaire minoritaire. Bien, après...
Il n'a pas communiqué le montant de la transaction entre lui et Daniel Kretinsky ? Mathieu Pigasse.
Pas à ma connaissance.
Pas à votre connaissance. Pourquoi il ne communique pas sur ce, ce montant ?
Il faut lui demander, Sonia. En revanche, le journaliste qui devait être Gilles Van Cotte qui parlait, dit quelque chose d'important. Parmi les principes de gouvernance et la stratégie qui a été revendiquée par Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse, il y a l'indépendance, pas seulement de la rédaction du Monde, de chacune des rédactions. Et donc, par ailleurs, ici, quand on voit qu'un actionnaire qui a par ailleurs des journaux,
Daniel Kretinsky a racheté, par surprise également, elle, Marianne, enfin tout un tas de...
Des journaux qui étaient en vente.
En vente, voilà, et vendus par le groupe Lagardère pour la plupart d'entre eux, sauf Marianne.
Et qu'on entend ici ou là qu'il peut avoir, dans les équipes de Daniel Kretinsky, des envies de rapprochement de Télé 7 Jours, de Télérama, de rédaction, de l'Obs ou du Monde, on peut comprendre que toutes les rédactions soient mobilisées. C'est pour nous une erreur stratégique ou une erreur éthique que de penser qu'on peut transformer les modèles économiques des journaux en les transformant en ferme à contenu, en mélangeant tous ces contenus. On est très vigilant sur un point, on est vigilant sur beaucoup de points au monde, dans le groupe, mais notamment sur le fait que chacune des rédactions garde son identité, garde son originalité, garde son indépendance les unes des autres.
Un rapprochement de Télé 7 Jours et de Télérama, vous nous l'apprenez. Parlons justement de l'équipe choisie par Daniel Kretinsky pour gérer ses actifs de presse en France. Vous avez dirigé le Nouvel Observateur Louis Dreyfus, vous avez dû en partir quand Denis Oliven est arrivé. Vous avez été l'un face à l'autre dans la bataille du Monde en 2010. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui de le voir en Denis Oliven, en chef de guerre de Daniel Kretinsky à la conquête du monde? C'est Denis Oliven qui gère précisément Télé 7 Jours, elle, Marianne et consorts.
Honnêtement, c'est pas un sujet pour moi.
C'est pas un sujet personnel.
Sincèrement, et j'ai pas l'impression que quand les rédactions se mobilisent, quand les lecteurs se mobilisent, quand la communauté intellectuelle se mobilise autour des valeurs du groupe Le Monde, elle se mobilise pour ses dirigeants. Donc ça n'est vraiment pas un sujet. En revanche, je pense que les principes de gouvernance et la place que Le Monde a dans le paysage médiatique et dans le paysage politique français méritent que chacun se mobilise.
Vous paraissez donc totalement en ligne avec les demandes du pôle d'indépendance, donc avec les demandes des rédactions qu'on vient de citer. Est-ce que vous êtes l'homme de Xavier Niel aujourd'hui, Louis Dreyfus ?
Non,
je vous pose la question parce que Xavier Niel est en ligne avec ces demandes et il a signé ce document.
Mais ça veut dire que Xavier Niel est en ligne avec les exigences du pôle d'indépendance. Mm-hmm. Et notre travail à Jérôme Fenoglio et à moi-même, mm-hmm. c'est de veiller à ce qu'il y ait un consensus au sein de nos actionnaires.
Donc oui, mais il n'y a plus consensus. Et manifestement, ils sont très fâchés, vos actionnaires.
On essaye de retrouver un consensus. Vous savez que nos actionnaires sont par ailleurs actionnaires d'une société Media One.
Oui.
Cette société continue à se développer. Elle est remarquablement gérée par Pierre-Antoine Capton. Donc ça prouve que ces actionnaires peuvent...
C'est dans le domaine de l'audiovisuel.
Dans l'audiovisuel, mais ils, oui. peuvent aussi s'entendre pour permettre à notre société de se développer. Donc on ne perd pas espoir, mais on souhaite aujourd'hui que les actionnaires, c'est-à-dire qui n'ont pas signé, c'est-à-dire Mathieu Pigas et Daniel Kretinsky, signent le droit d'agrément.
Je reviens à la question de ces statuts. Vous êtes manifestement extrêmement fragile, c'est-à-dire quiconque a besoin d'argent demande de l'argent, et c'est celui qui apporte de l'argent, qui prend le pouvoir en tout cas, qui menace de prendre le pouvoir si Mathieu Pigas cède encore un peu plus de ses parts et donne encore un peu plus de parts à Daniel Kretinsky. C'est-à-dire le pouvoir de décider. Quid de projets comme ce qui a été proposé par exemple par l'économiste Julia Cagé, par exemple, une fondation comme celle qui gère les actifs de Bertelsmann en Allemagne, une fondation comme celle qui gère le Guardian en Grande-Bretagne ou le Frankfurter Allgemeine, une fondation pour qu'il y ait des contre-pouvoirs, pour que vous ne soyez pas à la merci d'un milliardaire qui change d'avis.
Écoutez, je pense que
ou qui traverse une mauvaise passe financière.
Je pense qu'il y a deux étapes. La première, c'est qu'il faut absolument qu'on obtienne ce droit d'agrément. Et puis, dans un deuxième temps, et je vous rejoins là-dessus, il faudra probablement qu'avec les actionnaires, qu'avec le pôle d'indépendance, on arrive à pérenniser ce statut très particulier qui est celui du groupe Le Monde, en se disant, est-ce qu'il faut qu'on reste ce statut avec un pôle d'indépendance fort, ou est-ce que le pôle d'indépendance souhaite qu'on réfléchisse à une évolution?
Donc, en fait, c'était une poudrière depuis 2010. Alors, c'était une poudrière, et après la mort de Pierre Berger, ça a pété.
Dans la réalité, on ne peut pas parler de ce groupe comme d'une poudrière, puisque, et vous pouvez en témoigner,
oui.
On a été, honnêtement, on a eu un climat très apaisé, des journaux qui sont plutôt développés, et donc c'est un mouvement capitalistique qui aujourd'hui a pour conséquence cette mobilisation, mais pendant 10 ans, les actionnaires ont remarquablement investi dans le journal, et remarquablement, Pierre Berger, Xavier Niel, et Mathieu Pigas respecter l'indépendance des rédactions.
Ils vous ont fichu une paix royale, il faut le reconnaître. Sauf que l'un des trois est mort, et depuis, les deux se font face à face, et les deux se disputent. Donc vous êtes très dépendant de ça. Vous reconnaissez que vous êtes dans une situation extrêmement fragile.
On n'est pas dans une situation fragile, on est dans une situation inconfortable.
Ben donc, oui. ça fait une grosse crise hein, pour de l'inconfort quand même. Hein.
Et donc, on essaye les uns et les autres de trouver un texte commun. Je pense que le texte qui a été envoyé il y a maintenant 24 heures est un très très bon texte. Et puis après, si le pôle d'indépendance...
L'unique changement sur ce texte, c'est que vous promettez un prix plancher à Mathieu Pigas, c'est-à-dire la promesse qu'il ne perdra pas d'argent, du moins ce qu'il a mis de sa poche depuis 2010. C'est la seule avancée de ce texte, la seule concession qui a été faite aux demandes de Mathieu Pigas.
Alors d'abord, c'est pas moi qui le promets, c'est le pôle d'indépendance. Oui. Et c'est important de le rappeler, le pôle d'indépendance, ce sont eux qui sont en train de négocier, puisque c'est l'actionnariat, la pierre angulaire de notre actionnariat. Et c'est ce qu'ils ont fait, puisqu'il y avait une inquiétude chez les actionnaires qu'en quittant le capital, ils pouvaient perdre leur investissement. Ils ont proposé de garantir cet investissement, ce qui est un geste fort, puisque ça veut dire qu'il faudra quand même, en cas de non-agrément, trouver quelqu'un qui puisse rembourser l'actionnaire. Mais c'est sain que quelqu'un qui investisse dans Le Monde pour défendre notre indépendance et nos développements ait un investissement qui soit garanti.
Merci beaucoup Louis Dreyfus. Donc on attend, Mathieu Pigas signera pas, vous revenez demain?
Je reviens quand vous voulez.
Vous revenez lundi? Vous revenez mardi? On va vous avoir tous les jours. Merci beaucoup Louis Dreyfus, président du directoire du groupe Le Monde. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia De Villers.
Alors les écrans.
Ce matin, nous
est-ce que ça rend débile mental?
Écoutez, nous recevons le neuroscientifique directeur de recherche à l'INSERM, Michel Démurger, qui nous alerte sur les dangers réels des écrans pour nos enfants. Il vient de publier La Fabrique du crétin digital.
Ah, du crétin, carrément.
Du crétin digital, 01 45 24 7000.
Lâchez votre portable.